accueille du 21 novembre au 19 décembre la première biennale de l'art contemporain Yango autour du thème avancé. 25 artistes venus d'Asie, d'Europe, des Caraïbes et d'Afrique présentent leurs œuvres dans plusieurs sites, l'Académie des Beaux-Arts, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut Français et l'Échangeur de Limité. Au menu, des expositions, installations, performances, ateliers, conférences-débats, workshops et spectacles de musique. La Biennale Yango est un événement de l'agence de production Mutotu en collaboration avec Radio Capi.
Voilà, comment promouvoir le financement de projets agricoles en RDC, je le disais en sommaire de cette émission, Jean-Claude Tetika, directeur du Fonds pour l'inclusion financière en RDC, notre invité, nous allons savoir pourquoi il faut parler maintenant financement de crédit agricole, plutôt de projets agricoles en RDC. Oh, vous le savez, les opportunités de financement dans les secteurs agricoles sont presque inexistantes en République démocratique du Congo. Bon nombre de fermiers et autres agriculteurs qui comptent développer leurs fermes, champs de maïs et autres sont souvent buter à cette difficulté, c'est-à-dire le manque de financement. Il faut des garanties suffisantes. Les banques hésitent encore à mettre de l'argent dans ce domaine. Que faire pour encourager les banques, les investisseurs à financer dans ces domaines agricoles? On va aborder ces sujets. Nous rappelons le numéro des contacts. Si vous êtes intéressé, vous voulez poser des questions, appelez au 081 890 63 94 ou bien faites un SMS au 081 711 50 01. Alors, Jean-Claude Tetika, financement de projets agricoles en RDC, et pourquoi il faut parler maintenant de financer des projets agricoles en RDC?
Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je pense qu'il n'y a pas un très bon moment, en tout cas pour commencer à discuter de cette question. Déjà, c'est une question très capitale. Dans un pays qui est aussi vaste que le Congo, où 80 millions à 100 millions d'habitants, vous savez que nous sommes le pays où l'insécurité alimentaire est le plus élevée. Et d'ailleurs, les dernières statistiques nous classent parmi les pays les plus affamés. C'est assez malheureux de l'entendre. Et depuis de cela, nous sommes dans un pays qui présente des opportunités incroyables par rapport au financement, par rapport au secteur agricole. Et dans cette contradiction, nous, on a pensé qu'il était important éventuellement de commencer à pouvoir réfléchir profondément sur cette question. Nous ne sommes pas, le FPM n'est pas, nous faisons pas des soutiens aux agriculteurs, mais tout ce que nous essayons de dire, comment pouvoir pousser les banques, n'est-ce pas, et les institutions de microfinance à pouvoir accroître leur apport, n'est-ce pas, pour financer des projets agricoles, comme vous le dites, mais on aime bien les appeler les chaînes de valeur. Pourquoi chaîne de valeur? Parce que dans une chaîne de valeur, vous n'avez pas simplement que le producteur. Dans une chaîne de valeur, vous avez les producteurs, vous avez ceux qui transforment les produits agricoles, vous avez ceux qui les transportent, mais vous avez aussi ceux qui les vendent.
Mais pourquoi il faut réfléchir? Les constats étaient faits que les investisseurs, les bailleurs, hésitent souvent pour financer des projets agricoles?
Non, je pense qu'il est très important de pouvoir... Parlons d'abord en termes d'opportunités. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le secteur bancaire, et même les institutions de microfinance, en termes de perspectives de développement, il est important aujourd'hui de reconnaître que la concurrence est devenue telle que il est important de pouvoir réfléchir sur des niches où on peut développer l'activité de financement. Or, nous avons un vaste secteur agricole. Aujourd'hui, il est clair, hein, le Congo est un pays rural. Et 80-70% sont des populations qui évoluent dans le milieu rural. Et dans le milieu rural, la première activité, c'est le financement et plutôt l'agriculture. Vous savez, on est en train de parler de combien? On est en train de parler des 80 millions d'hectares de terres arables comme opportunité. Donc aujourd'hui, nous n'avons que 10% financés.
C'est des terres arables et des terres où on peut cultiver.
On peut cultiver. Oui. OK? Et nous avons une chance incroyable, une diversité climatique qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous voyez? L'abondance des pluies et qui permettent de pouvoir diversifier la production. Je ne parlerai pas abondamment, il y a encore des choses, on peut parler du réseau hydrographique. Aujourd'hui, le Congo représente à lui seul 50% de l'eau, des réserves d'eau douce en Afrique. Ce qui peut permettre de pouvoir irriguer plus de 44 millions d'hectares potentiellement irrigables. Et ainsi de suite. Nous avons des vastes étendues.
C'est-à-dire toutes les conditions sont réunies.
Ça veut dire que nous avons incroyablement de potentiel, oui, à pouvoir nourrir ce pays. Mais quand je vais dans un supermarché aujourd'hui, oui, je trouve un kilo de tomates à $20. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est trouver le kilo de viande à 10 dollars, quelque chose comme ça, ce n'est pas possible. Alors nous pensons qu'il est important de commencer à réfléchir très profondément. Et donc, c'est là que nous avons lancé notre initiative de faire d'abord, d'aller d'abord dans la compréhension. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez des spécialistes comment est structuré le financement, comment les banques financent, on ne peut pas vous répondre solidement. Les banquiers te disent, nous ne connaissons pas assez sur le secteur agricole. Il nous faut une cartographie de la demande qui nous permette de voir clairement où se trouvent les potentialités. Voilà. Le FPMA commence à réfléchir là-dessus. Il dit, voilà, commençons d'abord à pouvoir donner l'information. Et puis nous allons passer à une deuxième étape, à pouvoir mettre en place des mécanismes d'assistance technique qui permettront aux banques et aux institutions de microfinance de pouvoir voilà, accroître leur financement.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant là, pour promouvoir les financements, pour attirer les investisseurs, les bailleurs par rapport à ces secteurs agricoles? Alors, parce qu'à une époque, je crois à l'époque de la Deuxième République, il y avait même une banque de crédit agricole, mais malheureusement ça n'a pas marché. Il est tout dernièrement encore en 2013, le gouvernement Matata avait évoqué l'opportunité de créer une banque de crédit agricole. Mais qu'est-ce qui bloque?
Oui, écoutez, je crois que le gouvernement a une part à faire là-dessus. Aujourd'hui, là, je viens de pouvoir énumérer les potentialités qu'il y a de manière intrinsèque au niveau du secteur agricole. Mais aussi, il faut quand même reconnaître que depuis un certain moment, il y a quand même le gouvernement et d'autres bailleurs de fonds qui réfléchissent énormément par rapport. Le gouvernement a placé les secteurs agricoles comme étant des priorités. Et il est important de se rappeler quand même, hein, aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de ces secteurs, les gens, on est en train de s'imaginer qu'on est en train d'entrer dans un nouveau. N'oubliez pas que le Congo était un premier producteur de coton il y a quelques temps. Il avait 800 000 petits producteurs. Nous étions presque le deuxième en termes d'huile de palme. Il y avait beaucoup de production. C'est-à-dire que nous sommes juste en train de retourner, réfléchir pour reprendre notre position qu'on avait à l'époque, qu'on a complètement perdue avec la désintégration du tissu économique. Et donc, quelles sont d'autres opportunités? Aujourd'hui, le gouvernement est en train de réfléchir sur une loi, et cette loi est assez importante, qui exonère, par exemple, tout ce qui est entré en termes d'intrants agricoles, et tout ce qui est équipement, et tout ça. Et l'élimination, par exemple, de l'impôt foncier. Tout cela est dans cette loi, et nous prions quand même que cette loi puisse entrer en vigueur très, très rapidement. Donc, il y a énormément, il y a des bailleurs qui aujourd'hui sont en train de réfléchir, la Banque mondiale USAID, ils ont des projets concrets de pouvoir rétablir les associations paysannes, les chaînes des valeurs. Et donc nous on s'est dit, c'est le bon moment de commencer à faire et à réfléchir là-dessus.
C'est le bon moment de commencer à faire et à réfléchir là-dessus, mais également c'est le bon moment peut-être de parler, parce qu'on se rappelle qu'il y avait un atelier qui a été organisé par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des résolutions issues de cet atelier par rapport à ces secteurs de financement de
projets agricoles? Alors concrètement, dans les 2 mois qui vont suivre, nous serons en mesure, ou 3 mois, nous serons en mesure de pouvoir identifier dans le pays tous les aires agricoles qui ont un fort potentiel de financement dans le pays. Et nous allons mieux connaître. Et nous allons pouvoir passer après cela à une communication intense au niveau des banques et des institutions de microfinance en leur présentant, c'est la cartographie, en leur disant, voilà, vous pouvez aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Vous avez potentiellement une demande qui existe, qui est même solvable, il faut le dire comme ça, que vous pouvez financer. Donc, des actions tout à fait concrètes. Et au-delà, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes de financement que nous allons pouvoir proposer aux banquiers, tu vois. Tout ce qui est aujourd'hui quand même, il faut le dire, hein, peut-être c'est la question que peut-être vous allez me poser, mais qu'est-ce qui existe en réalité aujourd'hui en termes de financement agricole? Je veux vous surprendre. Le portefeuille des crédits de l'ensemble du secteur bancaire, financier, je vais dire en général, est autour de 3 milliards de dollars. Sur le 3 milliards de dollars, donc sur ces 100%, vous avez moins de 1% affecté au secteur agricole. Par contre, le paradoxe, c'est que le secteur agricole participe à près de 40% au PIB. Quelle contradiction! C'est-à-dire, on finance le minier, on finance la construction, mais de l'autre côté, le secteur qui apporte le plus au niveau du PIB n'est pas financé.
Il faut voir donc comment mettre encore un peu plus beaucoup de financement, beaucoup plus d'argent par rapport au secteur agricole.
Voilà. Pourquoi? Oui. Parce que c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui cultive, par exemple, 10 hectares ici au plateau des Bateke, les 10 hectares impliquent, s'il y a un peu de mécanisation, mais ça implique plus de 200 personnes à travailler dessus. Voyez? Donc, le secteur agricole est intensif en main-d'œuvre, donc réduction de la pauvreté, parce que les gens ont accès au travail, et ainsi de suite. Donc, il y a bien des raisons pour pouvoir pousser, effectivement, sur cette secteur.
Voilà, nous avons déjà des auditeurs en ligne qui veulent bien intervenir pour poser des questions, parler de leurs préoccupations par rapport à ces sujets, sur comment promouvoir le financement des projets agricoles en RDC. Nous rappelons le numéro des contacts pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous pouvez appeler au 081 890 63 94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Nous avons un premier auditeur en ligne, il nous appelle de Kinshasa, il s'appelle Freddy. Bonjour Freddy.
Bonjour monsieur.
On vous écoute Freddy. Quelle est votre question?
Oui, j'avais juste une petite question à poser à l'invité, si il peut me dire après. Oui, la question était celle-ci. Pour le programme de projet de financement des agricultures, là, moi j'ai été une fois dans le territoire de Ango. Bon, on travaillait dans une organisation internationale des Français là-bas.
Dommage pour Freddy, on l'a perdu, hein. Il y a un problème peut-être de communication, on va essayer de le retrouver. Et en attendant, on va prendre notre auditeur en ligne, c'est Ismaël Mopoy qui se trouve à Lubumbashi dans le Katanga. Ismaël Mopoy, bonjour.
Bonjour Marcel Ngobokto.
On vous écoute Ismaël.
Oui, ma première préoccupation est celle de une frustration que j'ai, tenu que dans deux années, il y avait certains financements où on finançait à la base de l'agriculture. Il se faisait que ces financements devaient aller jusqu'à 5 ans. Mais après 5 ans, si on évaluait, on ne devait pas trouver du progrès où les gens eux-mêmes ne devaient pas se supporter en vue d'acheter, par exemple, l'engrais chimique et continuer avec les cultures. Mais qu'est-ce qui était à la base de tout cela? Et la question que je me pose aussi souvent, comme l'invité a dit qu'il est d'abord, il faut qu'il y ait un mécanisme de suivi à tous ceux qui veulent cultiver. La question, c'est de savoir, à part la catégorie A, c'est-à-dire l'agriculture industrielle, qui peut être financé? Et si ce dernier peut être financé, avec quel moyen? Et cette demande, celui qui sollicite une aide, ça peut se faire après combien d'années? Et après combien de années? Merci beaucoup, Marcel.
Merci, Ismaël Mopoy, d'avoir appelé de Lubumbashi dans le Katanga. Jean-Claude Etika, qu'est-ce que vous dites à Ismaël?
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je compris qu'il était en train de parler du financement à long terme. Et il a raison, hein, effectivement. Vous ne pouvez pas imaginer financer l'agriculture. C'est vrai, même au niveau de l'agriculture, vous avez toujours des besoins de financement à très court terme. Hein, oui. Éventuellement, pour préparer la récolte, pour préparer la terre, par exemple, avant les semis et tout. Et donc, il y a effectivement... Mais lorsque quelqu'un veut faire, par exemple, des vergers, éventuellement, les manguiers, lorsqu'on les met sous la terre, vous devez attendre 5 ans pour pouvoir financer et pendant ces 5 ans éventuellement le financement est là, mais oui, il a raison, il faut un mécanisme de suivi pour pouvoir accompagner. Donc c'est ce que j'étais en train de dire, une des raisons aujourd'hui qui nous encourage nous au niveau du FPM de pouvoir entrer dans ces secteurs, c'est parce que aujourd'hui nous avons en tout cas l'impression que on a beaucoup d'organismes publics ou privés et des organisations internationales qui sont en train de pouvoir soutenir, n'est-ce pas, d'accompagner agriculteurs qui sont le plus actifs. Et donc nous pensons que c'est le bon moment, en effet. Et donc, notre bataille, c'est d'amener les banques, pas à financer les agriculteurs comme on finance les PME urbaines. Si tu me donnes un crédit de 6 mois et tu me dis de repayer chaque mois, ça ne fait pas du sens. Parce que lorsque moi, je plante aujourd'hui, je ne vais pas avoir des récoltes chaque mois. Je vais attendre X temps pour pouvoir récolter. Et donc, il faut qu'il y ait des mécanismes de financement qui puissent réellement répondre même aux cycle de l'activité du producteur. Or, ça, on n'a pas. Aujourd'hui, vous pouvez trouver certaines institutions qui vous disent, écoutez, nous avons quand même un mécanisme de financement, mais quand vous regardez en réalité, vous vous rendez vite compte que non. Ils sont juste en train de transposer des crédits urbains décaissables avec des annuités aux agriculteurs. Résultat des comptes, c'est que les agriculteurs ne savent pas le payer, oui, parce que les cycles de paiement ne correspondent pas au cycle des activités, ainsi de suite. Donc voilà un peu.
Alors toujours par rapport à cette question, je crois que c'est important également d'y revenir parce que vous avez parlé à l'issue du site Atelier, il y a des résolutions, vous avez même annoncé dans les 2 mois qui suivent, on pourra identifier tous les sites agricoles à travers le pays et également vous avez parlé de mécanismes sur lesquels vous êtes revenu, mais la question qui me vient à l'esprit, comment ça va se passer concrètement? Qui seront concernés par ces crédits agricoles? Et on va chercher des grands fermiers, on va chercher des associations, ça va se passer concrètement?
Alors,
comment?
Oui. C'est une très bonne question. Oui. La question que vous me posez, c'est de dire, mais de qui parle-t-on aujourd'hui dans ces secteurs? Nous avons des milliers des petits agriculteurs qui ont des petites fermes qui s'apparentent plus à des fermes familiales, des familles, pour des raisons de subsistance éventuellement. Et nous avons des gens qui ont des espaces moyens, des agriculteurs qui essayent un tout petit peu d'avoir et des commercialiser. Et puis vous avez effectivement de grandes PME, de grosses entreprises agricoles qui ont toute une chaîne qui sont en train de développer. C'est-à-dire que s'ils plantent les maïs, c'est peut-être demain pour pouvoir transformer cela à tel autre, tout ça. Nous n'avons pas de distinction. Nous ne faisons pas un choix particulier. Nous voulons d'abord comprendre tous les acteurs qui interviennent dans cette chaîne-là. Déjà au niveau des producteurs, de dire oui, qui sont le gros producteur? Est-ce qu'ils existent? Qui sont les producteurs moyens? Et puis identifier quand même aussi le nombre ou peut-être, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle des agriculteurs individuels, familiales. C'est très important de pouvoir catégoriser. Lorsque nous aurons une idée tout à fait claire de cela, nous allons pouvoir en effet proposer des solutions qui vont aller répondre aux besoins de chaque segmentation au niveau du secteur agricole. Donc c'est vraiment un travail qui va couvrir l'ensemble de besoins, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, toute la chaîne de valeur, du petit agriculteur jusqu'à la grande transformation, parce que n'oubliez pas que les banquiers cherchent quand même des agriculteurs ou des projets qui sont rentables aussi.
Ça c'est très intéressant, je crois que j'imagine bien ça rassurera même tous les petits agriculteurs, tous les petits fermiers qui sont en train de nous suivre. On va prendre une auditrice en ligne. C'est Aimé qui nous appelle d'Issiro, en Poste Oriental, Aimé Minaku. Aimé, bonjour.
Allô, bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
On s'écoute, Aimé.
J'ai une question, mais avant cela, j'aime du ici. Ici à Issiro, il y a une plantation. On a planté le soja et les cafés. Et les travailleurs, il n'y a pas moyen de bien progresser parce qu'ils n'ont pas vraiment des outils, ils n'ont pas d'industrie pour bien travailler. Alors, je voulais demander à l'invité, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'ils aient l'assistance financière des gouvernements?
Merci, Aimé Minaku, d'avoir appelé d'Issiro en Province orientale. Notre invité va vous répondre tout à l'heure. On va rester toujours à Issiro, dans la même province, pour accorder la parole à Anelka. Anelka, bonjour.
Oui, bonjour Marcel Ngombo, c'est Anelka Mal depuis Siro toujours.
On vous écoute Anelka.
Oui, excusez-moi, je voulais dire, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui ont perdu confiance dans ce secteur de l'agriculture multinationale. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent d'accord et concluent bien leur marché, mais ils sont toujours perdants. Vous allez voir, les travaux commencent bien, mais les travaux n'aboutissent presque jamais. Il y a trop de difficultés. Les travailleurs qui entrent à grève, ils réclament leur salaire et les désordres entreprises, tout finit vraiment à la queue du poisson. Je ne sais pas, j'avais une question à poser à l'invité. Quel conseil peut-il prodiguer aux pareils gens qui concluent bien et finissent mal? Merci Marcel.
Merci Anelka d'avoir appelé d'Issiro en province orientale. Jean-Claude Etika, on va commencer avec Aimé qui nous a appelé d'Issiro, qui a parlé d'une plantation qui existe dans le coin où on a planté du soja et du maïs. Mais voilà qu'il y a des problèmes simplement parce qu'il y a les matériels qui n'existaient pas. Voilà encore pourquoi c'est important de répertorier vraiment tout le site agricole, de voir tout ce qu'il y a comme problème. Qu'est-ce que vous dites à Aimé Mina?
Oui, voilà, donc ça c'est une question spécifique éventuellement. C'est pas l'idée de répondre à mais éventuellement, tout ce que je peux dire à Aimé, c'est exactement à ce type de questions que nous voulons répondre, de dire, mais oui, les gens qui sont à Isiro, si Isiro représente une zone agricole assez importante, à qui est-ce qu'il peut frapper? Peut-être un jour plus tard aussi de dire aux banquiers ou aux institutions qui évoluent. Bon, je sais qu'Isiro est très très mal servi parce que nous venons d'ailleurs de faire une étude à la province orientale et nous sommes rendus vite compte qu'Isiro est très très mal servi. Je pense même pas qu'il y a des banques là-bas dedans. Et donc, c'est une difficulté énorme, mais j'imagine qu'il doit y avoir des ONG qui soutiennent le secteur agricole. J'imagine qu'il y a quelques bailleurs de fonds qui font le soutien. Il est important, à l'absence maintenant des banques et des institutions financières, de pouvoir éventuellement identifier ces ONG. Et il y en a toujours un qui soutient le secteur et tout ça, à qui on peut obtenir des très bons conseils éventuellement et peut-être des petits financements aussi. Donc il est important en même temps, lorsque vous êtes dans le secteur agricole, de ne pas rester enfermé parce que il y a beaucoup de questions pour lesquels le seul agriculteur ne peut pas répondre éventuellement. Il faut s'informer, il faut aller peut-être à la cellule agricole du ministère de l'Agriculture au niveau régional, poser la question, vous trouverez toujours 2-3 références qui pourront être importantes où vous pouvez trouver des solutions. Alors, peut-être la question...
Anelka, oui.
Oui, la question d'Anelka, elle est assez importante. En fait, ce qu'il dit, exactement, il parle des contraintes. Une des raisons fondamentales aujourd'hui, si vous demandez aux banquiers pourquoi vous n'entrez pas, naturellement, faire des crédits aux PME qui sont dans les villes et faire les crédits agricoles, c'est tout à fait différent. Il y a beaucoup de difficultés en termes de contraintes. Éventuellement, si je dois financer quelque part, je dois d'abord me rassurer que la production à ces coins-là peut être exportée ou vendue quelque part. Il faut qu'il y ait une demande. Je dois me rendre compte, je dois réaliser qu'il y ait des routes qui puissent évacuer ces marchandises. Il faut qu'il y ait un mécanisme de marché tout autour là où on finance. Et donc, les conseils, c'est que oui, peut-être dans 3-4 mois, lorsque nous aurons fini notre étude, nous pourrons encore donner des détails plus concrets. Il faut se rendre compte que oui, il y a des endroits où ça serait beaucoup plus difficile de pouvoir travailler. Il y a d'autres endroits où ça serait beaucoup plus aisé. Et donc, il faut d'abord pour les investisseurs de pouvoir identifier là où il y a un fort potentiel, clairement. Et le fort potentiel ne suffit pas en termes naturels, mais il y a aussi, il faut avoir toutes les contraintes environnementales d'investissement, infrastructures pour pouvoir imaginer que si on peut créer un dynamisme de marché qui peut aller des producteurs jusqu'à la commercialisation, ainsi on peut avoir beaucoup d'opportunités de financement, notamment sur toute la chaîne des valeurs. Donc oui, beaucoup de prudence, beaucoup d'études éventuellement, et voilà, nous allons certainement contribuer à cette compréhension dans les jours à venir.
Voilà, il y a également cette réaction qui nous est parvenue sur notre page Facebook, c'est Jean-Pierre Djeli qui nous écrit depuis Kindu dans le Maniema. Il écrit ceci: c'est nous-mêmes Congolais qui ne savons pas gérer certains financements. Par exemple, ici à Kindu, les autorités, au lieu de distribuer les tracteurs aux concernés, ils les donnent plutôt à leurs frères ou bien aux membres de leur famille, et ces gens commencent à transporter des briques avec ces tracteurs plutôt que de faire le travail. Il dit alors comment on peut bénéficier des opportunités comme ça. Et Pyram avait apporté des motos, c'était le même exercice. Donc finalement, ça c'est l'autre paire de manches. Donc c'est bon d'avoir des financements, mais il faut savoir aussi les affecter à ces dons. Ils ont été pour le projet concerné.
Oui, écoutez, Jean-Pierre est tenté de relever un point qui est très important, la question aujourd'hui de dire, c'est la question fondamentale qu'on se pose toujours, jusqu'à quel degré par exemple le pouvoir public peut intervenir dans un marché et que ça soit efficient en termes d'intervention. Effectivement, ce qu'il est en train de dire, je l'ai vu aussi, je fais un tour du côté de Kikwit et sur la route j'ai trouvé plein de tracteurs qui transportaient autre chose que des produits agricoles. Et ces tracteurs ont été distribués de manière que je peux imaginer pas efficace, et donc c'est tombé entre les mains des gens qui étaient autre chose qu'agriculteurs. Et éventuellement, ça c'est un problème, parce que on ne peut pas juste imaginer que soutenir un secteur agricole, c'est juste transporter des milliers d'hectares et le mettre de l'autre côté. Non, il faut un système intégré. Aujourd'hui, moi, je suis en train, par exemple, d'encourager le gouvernement avec les projets de parcs agroalimentaires qui sont en train de mettre de partout. Et tout ça, ce sont des initiatives qui, au final, donneront des leçons qui pourront être dupliquées ailleurs et qui permettront et peut-être créeront aussi des mécanismes qui créeront un dynamisme autour du secteur. Toute la question, c'est pour nous, c'est de dire oui, c'est bien. Il faut qu'on évite peut-être d'aller dans trop de sophistication parce que voilà. Après, on risque d'avoir un îlot très sophistiqué de parcs, oui. Mais de l'autre côté, il n'y a pas une connexion entre ces parcs, par exemple avec les agriculteurs qui ont besoin plutôt des éléments élémentaires, des choses élémentaires pour commencer avant de pouvoir croître. Mais voilà, ce que j'ai dit, effectivement, il y a certaines initiatives qui n'ont pas marché, mais je pense que des exemples à Bukangalonzo sont des exemples à pouvoir louer éventuellement. Oui. C'est une question d'approche, c'est une question de méthode pour pouvoir aborder ces secteurs.
Une question qui me vient à l'esprit par rapport à ce vaste travail que vous allez faire, vous avez des partenaires avec qui vous allez travailler?
Oui, bien sûr. Déjà, il faut lorsqu'on parle du FPM, nous parlons quand même de plus de 5-6 bailleurs de fonds. Aujourd'hui, nous avons le PNUD qui travaille, qui est le bailleur du FPM. Nous avons UNCDF qui est le bras technique du PNUD. Nous avons la KfW, nous avons la Banque mondiale. Vous savez que la Banque mondiale est très très impliqué dans le secteur agricole et ils ont un vaste programme de corridors ouest et est sur lesquels ils sont en train de mettre beaucoup d'argent pour soutenir les agriculteurs. Donc oui, nous, tous ces bailleurs de fonds qui sont nous soutiennent. En plus, nous avons aussi des partenaires. Aujourd'hui, l'étude, nous sommes en train de l'amener avec SNV qui est une ONG néerlandaise qui est très 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 impliquée dans le secteur agricole. Non, en fait, l'idée c'est cela, c'est de créer une dynamique autour de ce que nous faisons pour que ça ne soit pas juste un petit truc que nous faisons à côté, mais exactement, pour vraiment sensibiliser tout le monde pour pouvoir résoudre cette question.
Comment promouvoir le financement de projets agricoles en RDC? Nous en parlons avec Jean-Claude Tétika, directeur du Fonds pour l'inclusion financière en RDC. Si vous venez de vous joindre à nous, le numéro d'appel est 081-890-63-94.
Au Capitan, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit, et le samedi, Megamix de 19h à minuit. Au Capi Dance New Wave, tous les mercredis, de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Pichu Chimanga nous appelle de Kisangani pour l'Est Oriental. Bonjour Pichu.
Oui, bonjour au Capi Service. Oui, juste, j'ai une question à poser à l'invité. Mais avant de poser cette question, je vais donner un peu ce que nous avons eu comme expérience dans le domaine agricole aussi. Nous avons assisté à la production de la société Soteski et la société Taben. Et la Soteski, c'est une industrie qui évolue dans les domaines textiles. Et la société Taben était dans la production de cacao. Mais dans les années où ces deux sociétés produisaient plus, on voyait qu'ils encourageaient les agriculteurs dans les domaines, surtout ceux qui avaient l'habitude de cultiver le soja, ils les demandaient de cultiver le soja et le coton. Et ceux qui cultivaient le maïs, ils cultivaient des fois le maïs et le coton. Ceux qui cultivaient le cacao, et souvent la société Taben les encourager, les doter de matériel et même des graines. Et la Soteski aussi donnait des graines aux autres sociétés. Et de part, la Soteski encourageait même la société Côte des Nord qui couvrait les domaines des cotons. Et vous remarquerez que les agriculteurs étaient plus impliqués parce qu'à chaque fois qu'ils produisaient, et ils gagnaient des primes, ils avaient des cadeaux un peu de grande valeur. Mais en cela, nous remarquons encore que ce système a changé un peu. Il y a eu des financements, au lieu de donner doter des matériels d'agriculture, il y a eu maintenant des financements liquides. Et maintenant, à cela, j'ai une question à poser à notre invité. Entre la dotation matérielle et la dotation liquide, quelle est la bonne façon d'encourager le secteur agricole? Merci beaucoup.
Merci à Pichu Chimanga d'avoir appelé de Kisangani en province orientale. On prend Rachidi qui est à Kalemi dans le Katanga. Bonjour Rachidi.
Bonjour les journalistes et bonjour notre invité.
On vous écoute Rachidi.
Ah ouais, c'est juste que nous pouvons demander parce que ici, chez nous, au Katanga, précisément, en Nyunju, il y avait une société communément appelée Cotongo, là, on produisait du coton. Maintenant, ces cultivateurs ont été abandonnés par les cultivateurs. Nous voulons demander quel conseil peut-on donner à des cultivateurs qui sont abandonnés. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est la politique du ministère de l'agriculture pour améliorer la qualité des récoltes à la saison.
Voilà, merci Rachidi d'avoir appelé de Kalemi dans la province du Katanga. Jean-Claude Etika, vous avez suivi Pichu Chimanga qui a posé une question claire. Hein,
non, c'est une question qui est tout à fait claire et en même temps qui, on voit qu'effectivement il a bien suivi ce qui s'est passé.
Exactement.
En fait, il était en train de décrire des mécanismes de financement des chaînes de valeur. Où vous avez de gros producteurs qui ont un intérêt particulier sur une production, cacao, coton, parce que ce sont des exportateurs qui les apportent, les exportent au niveau de l'Europe ou partout ailleurs pour pouvoir. Et donc, au sein de ces grandes entreprises, il y a des mécanismes de financement. Alors, dans le financement agricole, il n'y a pas que c'est le banque, effectivement. Donc, c'est une question, c'est quelque chose de très important qui vient de relever là. C'est aussi, vous avez toujours beaucoup d'autres mécanismes de financement qui existent entre de gros exportateurs qui ont un intérêt particulier, par exemple pour le coton, qui se disent non, je ne voudrais pas laisser les petits agriculteurs juste comme ça éparpillés. Je veux pouvoir les encadrer en leur donnant des engrains, en leur donnant des semences qui sont améliorées et en mettant en place tout un programme de protection avec des pesticides et autre chose. Et donc, c'est aussi une forme de financement qui est déjà inclus dans la chaîne de valeur même et qui portait effectivement beaucoup, beaucoup de valeur parce que toutes ces grandes sociétés étaient des gens qui soutenaient. Éventuellement, lorsque la production, les soutiens et les contraintes légales ou autres sont arrivées, effectivement, ces grandes sociétés ne pouvaient plus. Ils ont cherché d'autres marchés où les choses étaient beaucoup plus faciles. En effet, financer en liquide ou en équipement, c'est très simple de donner effectivement de la semence améliorée, de donner des engrains qui correspondent aux besoins de l'agriculteur, parce que si vous lui donnez effectivement l'argent, est-ce qu'il a des connaissances suffisantes pour pouvoir aller chercher des engrains qui correspondraient réellement à ce besoin? Aurait-il vraiment assez de connaissances pour savoir c'est tel type d'équipement que je dois acheter? A-t-il un pouvoir de négociation pour pouvoir commander un équipement à l'extérieur? Donc, c'est très limité. En effet, je suis d'accord, quand on est en face de très très petits agriculteurs, il est important de pouvoir promouvoir des dotations bien ciblées, réfléchies, et petit à petit, les apprendre eux-mêmes à se prendre en charge par la suite. Il faut aussi parler de la déviation de l'objet des crédits. Hein.
Oui, quand
vous avez,
ça,
quand vous
ça,
avez la liquidité dans la poche, éventuellement, voilà, il y a bien des besoins. Et pour Rachidi, en effet, oui, j'étais en train de parler, d'ailleurs, tout à l'heure au début de l'émission, que nous étions, le Congo était un des premiers producteurs de coton et ça a été abandonné simplement parce que des mécanismes de soutien à ce secteur ont été abandonnés et donc cela a augmenté énormément des coûts pour des producteurs. Donc ils ne pouvaient plus, ces grandes sociétés ne pouvaient plus résister, la crise était énorme et donc il y avait l'environnement ne s'apprêtait plus. Hein. Il faut se rendre compte qu'on parle bien des années 80-90, où tout a été complètement détruit. Dans un contexte comme ça, il n'y a aucun mécanisme qui peut être mis en œuvre. Mais aujourd'hui, en effet, il y a moyen. On est en train de réfléchir sur les différentes filiales, notamment aussi la filiale coton. Avec un peu d'information, en effet, on peut trouver des bailleurs, des ONG qui soutiennent, la résurgence même qui essaie de ressusciter en fait cette filiale coton.
Nous avons Roger qui nous appelle de Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour Roger.
Oui, c'est Roger.
Mais vous êtes en ligne, Roger. Oui, vous êtes déjà en ligne. Quelle est votre question?
Oui, je salue notre invité. Et ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que, puisqu'on parle des financements des agriculteurs ruraux, pourquoi pas l'État congolais puisse faire comme notre président, le président Joseph du roi de Kabila, créer des grandes entreprises agricoles dans toutes les provinces? Hein? C'est ça ma préoccupation.
Voilà, merci à Roger d'avoir pu vous mâcher dans le Katanga. Votre commentaire, Jean-Claude.
Oui, mais je
pense... Roger, c'est pas Guy, c'est Roger Bokessi.
Ah, oui. Merci Roger, voilà. Merci Roger d'avoir pu vous mâcher dans le Katanga.
Alors, cher Roger, il tient bien on prononce très bien son nom. Oui. Roger, je pense qu'il y a, même plus qui est en train d'être fait aujourd'hui, hein, du point de vue, je ne suis pas le représentant du gouvernement ici, je parle au nom du FPM, mais en tout cas, je constate que l'initiative des parcs agricoles, qui sont, cette initiative qui est déjà lancée, qui est déjà effective, est de loin mieux de ce qu'on a vu dans le passé. Et l'objectif, c'est pas simplement de limiter à Bukangalonzo, au Bandundu. Éventuellement, il y a tout un plan de déploiement qui va pouvoir prendre, en tout cas d'après ce que je comprends du programme du gouvernement, qui va pouvoir voilà être étendu sur toute la République. Donc, je pense que c'est quelque chose de plus concret. En tout cas, là, on a passé du verbe à la concrétisation. Donc, on a beaucoup d'espoir de voir cette initiative évoluer. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Peut-être qu'il faut inviter quelqu'un du ministère de l'Agriculture pour nous parler un peu plus sur les initiatives du gouvernement.
Alors, Jean-Claude, qu'est-ce qu'on dit alors à tous ces fermiers, à tous ces cultivateurs qui sont maintenant en train de nous suivre, qui sont peut-être découragés par rapport à tout ce qui s'est fait dans le secteur agricole? Est-ce qu'on peut dire que peut-être dans un proche avenir, ces secteurs pourra connaître quand même, recevoir un nouveau souffle? C'est-à-dire qu'après tout ce qui sera mené comme étude, après tout ce qui sera mené, comme vous avez dit, tout ce qu'on va mettre en place comme mécanisme sur la chaîne de valeur dans les secteurs agricoles, il y a un souffle nouveau qui peut renaître dans ces secteurs.
Écoutez, je peux vous le dire très clairement, c'est que c'est un message d'espoir. Je pense que si les dynamiques actuelles, en tout cas dans le pays, se maintenaient, donc je suis en train de parler essentiellement des dynamiques économiques.
Oui.
Si le paysage politique ne vient pas brouiller et tout, nous pensons que les 10 prochaines années dans ce pays vont pouvoir être des années vertes. Ça c'est clair parce que je vous dis, hein, vous savez, je vais vous donner juste quelques chiffres. Hein. Aujourd'hui, il est estimé que dans 20 ans, l'agriculture mondiale, en tout cas ceux qui exploitent aujourd'hui de manière intensive, n'auront plus assez d'eau, par exemple, à pouvoir faire l'agriculture. Au moins 30% de la quantité d'eau sera insuffisante quelque part dans le monde. Ce qui va représenter pour le Congo des opportunités énormes. Donc nous allons vivre une migration agricole sérieuse. D'ailleurs, on est tenté déjà de voir des gens en train d'acheter des terres, vous pouvez déjà les constater. C'est que le Congo va être certainement dans les prochaines années le coin où les gens vont pouvoir migrer pour pouvoir faire. Éventuellement, je suis en train de parler du gros projet agricole, il faut toute l'intelligence serait de pouvoir trouver des mécanismes de coordination et d'intégration des petits agriculteurs dans ce grand mouvement qui je pense que ça doit absolument venir parce qu'on n'a pas de choix que de le faire. C'est honteux quand même qu'on dise que nous sommes un pays le plus affamé. C'est honteux de voir la tomate $30.
Alors toutes les potentialités sont là.
Alors tout le potentiel est là, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a, un grand message, il y a un grand espoir dans la vie.
Voilà, on va prendre un dernier auditeur en ligne, Patrick, qui est appelé de Mbujima et dans les Casses Orientales. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Patrick.
Oui, je commencerai d'abord par vous demander d'être quelque peu tolérant à mon égard, parce que je ne suis pas du secteur, hein, mais comme tout Congolais, je suis quand même affligé. Hein, lorsque je voyage, je vois toutes ces étendues de terre inexploitées, alors que sous d'autres cieux, on sait qu'ils se battent pour le pain des terres. Hein, alors moi, ayant suivi notre invité, j'ai envie de poser une question, parce que moi-même, j'ai eu à échanger avec les agriculteurs. Hein, dans la détresse dans laquelle j'étais, je les ai interrogés sur leur activité agricole, et j'ai entendu dans pratiquement tous les coins de la RDC que eux, ils se sentent exploités par ceux qui les financent. Hein, et c'est vraiment le même discours qui revient un peu ça et là, comme si c'était des communistes. Donc c'est une expérience qu'ils ont vécue. C'est-à-dire, ils sont financés à petite échelle, ils font la production, mais cette production n'est pas toujours suffisante. C'est vrai qu'ils ont quitté l'agriculture rudimentaire dans laquelle ils ont été depuis toujours. On leur a accordé du matériel ou bien on leur a accordé des semences améliorées qui leur permet une production plus rapide peut-être, puis de meilleure qualité. Mais cependant, leur situation reste la même. Moi, j'ai envie de dire, oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre sur pied un financement qui permette une certaine autonomisation de ces paysans à la longue? Parce qu'ils ont l'impression, pardonnez-moi de le dire ainsi, d'être infantilisés. Et beaucoup se lassent, hein, et puis à un moment, vous voyez, ils disent, ben, il n'y a plus de financement, et on a arrêté tout parce qu'ils ne financent plus. Alors, on ne sait pas quand est-ce. Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent de financer à un certain moment?
Oui, Patrick, on a compris, oui.
Oui.
Oui, on a compris l'essentiel de votre préoccupation. Hein. Donc l'invité va réagir par rapport à ça. C'est-à-dire pour eux n'est pas comment dire. Vous avez parlé de l'autonomisation hein, de ces paysans plutôt que comme vous le dites là. Vous êtes excusé. Vous pensez qu'on les infantilise. Hein. Donc l'invité va faire un commentaire par rapport à tout ce qu'il y a comme financement dans ces secteurs et comment va se passer. Hein, ce qui va être fait au niveau de fonds pour l'inclusion financière en RDC. J'espère que c'est bien cela, Patrick.
Oui.
Voilà.
Oui. Alors, cher Patrick, vous avez totalement raison. Les sentiments que vous avez pu déceler au niveau des agriculteurs, c'est un sentiment tout à fait réel. En fait, tout ce que vous dites, c'est voilà, ils ont des financements qui sont inappropriés, inadaptés à leurs besoins réels. Donc, au final, c'est que ils sont en train de repayer des dettes qui ne produisent pas effectivement des effets attendus. Et éventuellement, ils n'ont pas. Et compte tenu de ça, c'est que voilà, la production est faible. Et puisque la production est faible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas moyen d'influencer les prix. Et puisqu'ils n'ont pas, ils ne sont pas intégrés dans une chaîne de valeur où ils peuvent jouer peut-être sur le stockage et attendre la période où les prix sont élevé pour pouvoir attraper, avoir une chance de pouvoir vendre avec des prix élevés. Tout cela fait que, et en effet, les financements et tout cela qui va avec semblent pouvoir nuire plutôt que faire du bien. Et c'est même, si tu veux, Patrick, c'est la question même que nous essayons de répondre. Comment mettre en place des mécanismes de financement qui puissent permettre d'avoir, de prendre en compte tous les paramètres réels des agriculteurs et qui puissent les aider, en effet, à pouvoir répondre à des besoins spécifiques et aussi, voilà, les autonomiser. C'est-à-dire que être capable de pouvoir générer un surplus qui, enfin, pourrait peut-être les mettre à l'abri de pouvoir tout le temps être en train d'attendre des financements. Et c'est vraiment la réflexion que nous lançons. Vous n'avez même pas à vous excuser. le constat est tout à fait vrai et c'est même la problématique qui est prise en compte par l'étude et tous les travaux que nous sommes en train de faire. Et peut-être dans les prochains mois, quand on reviendra pour parler un peu de quelques résultats, nous pourrons en parler un peu plus.
Donc ça, c'est les rendez-vous et prix. Hein. C'est très important de suivre un peu comment ça va évoluer. Puisque vous l'avez dit, 80% des terres arables, il faut vraiment absolument utiliser toutes ces terres pour qu'on parle plus de la RDC comme un pays affamé. Ouais. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup, Jean-Claude Tika, de rappeler que vous êtes directeur du Fonds pour l'inclusion financière en RDC. Vous étiez notre invité pour parler de comment promouvoir les financements des projets agricoles en RDC. Merci beaucoup.
Je vous remercie.